La Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie fustige le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle évoque une analyse biaisée, partiale et injuste pour toutes les victimes des émeutes de 2024. La situation du camp Est est déplorable. FO Justice alerte sur les sous-effectifs après une nouvelle agression à la prison de Nouméa. L'actualité nationale et le ministère public qui ne requièrent pas l'exécution provisoire à l'encontre de Marine Le Pen. Avec 10 autres prévenus, elle était jugée en appel dans le dossier des assistants parlementaires du Front National. 5 ans d'inéligibilité demandée à son encontre, mais sans exécution provisoire, contrairement au jugement en première instance. Toujours dans l'actualité en métropole, une professeure d'art plastique très grièvement blessée. Elle a été poignardée à 3 ou 4 reprises par un élève de 3e dans un collège du Var. Le jeune a été placé en garde à vue. Le sport et Marseille qui tentent de mettre fin à sa série noire. L'OM reçoit Rennes ce matin pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France de football. L'autre rencontre du jour est un duel entre clubs de Ligue 2. Reims qui affronte Le Mans. Le coup d'envoi vient d'être donné. La météo en Nouvelle-Calédonie, les nuages deviennent plus nombreux, notamment sur le relief, le nord-ouest et au Loyauté où des averses se produisent et où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Ailleurs, le ciel est généralement peu à passagèrement nuageux. Quant aux températures, elles restent généralement supérieures à 30 degrés et atteignent localement les 34 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une actualité sur le territoire.
Oui, et la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie qui réagit à son tour au rapport controversé de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la gestion par l'État de la crise insurrectionnelle du 13 mai 2024. Et elle dénonce, je le disais en titre Elisabeth Noir, une analyse biaisée, partiale et injuste pour toutes les victimes des émeutes.
La Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie, qui avait déjà par le passé pris ses distances avec la Ligue des droits de l'homme nationale, n'y va pas de main morte pour tacler le rapport de la CNDCH. Elle dénonce d'abord une analyse biaisée et partiale, en se déclarant sidérée de ne pas avoir été auditionnée par la Commission nationale, et elle se demande pourquoi la Commission n'a pas interrogé les représentants des communautés non kanak, les maires des communes concernées, dont celle du Mont d'Or, les associations d'action sociale, les syndicats de la santé et de l'enseignement, les collectifs de quartier, les services de sécurité, mais aussi les représentants politiques autres que ceux du FLNKS, UC, CCAT. La lecture des événements de 2024 apparaît donc biaisée et son analyse bien partiale, car elle oublie les vraies victimes de ces exactions criminelles, écrit la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie. Elle évoque ensuite avec des mots très forts une violence qui a fait exploser, dit-elle, l'accord de Nouméa. Elle rappelle avoir dénoncé et alerté régulièrement sur les inégalités croissantes dans la société calédonienne et sur l'inquiétant décrochage d'une partie de la jeunesse kanak. Mais elle déclare avoir observé avec stupeur, comme toute la population, le recours à une violence inouïe des indépendantistes les plus radicalisés, endoctrinant des jeunes en déshérence et fortement alcoolisés. Elle parle de radicaux qui ont utilisé la terreur et les exactions pour détruire ce qui avait été progressivement mis en place dans le cadre des accords pour rééquilibrer les territoires et réduire les inégalités. La Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie relève ensuite que les droits fondamentaux de la population ont été bafoués pendant des semaines et elle évoque une répression attendue et mesurée. Pour elle, les forces de l'ordre débordées dans un premier temps ont agi avec discernement et modération, malgré l'extrême violence des agresseurs en bande organisée, pendant que la population mélangée des quartiers s'organisait en voisins vigilants, comités de défense qui sont restés incroyablement pacifiques, malgré un sentiment général de peur, puis de méfiance, puis inéluctablement de rejet ethnique. Et la Ligue calédonienne s'interroge, comment la Commission nationale consultative des droits de l'homme peut-elle reprendre ce fantasme fabriqué sur les réseaux de milices armées? Quant à savoir qui est responsable des émeutes, la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie estime que les inégalités sociales et ethniques, ainsi que la déshérence d'une partie de la jeunesse kanak, ne doivent pas être attribuées à l'État ou aux institutions, mais bien à l'aveuglement idéologique des politiques locaux. Elle reproche enfin à la Commission consultative des droits de l'homme de ne faire des recommandations évidentes qu'en ciblant l'État et la province sud, et en oubliant, écrit-elle, qu'économie, santé et enseignement sont de compétences provinciales et que la population est pluriethnique.
Et la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie qui expose également sa position dans un courrier adressé au Premier ministre et au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Un courrier signé de Gérard Sarda, le président de la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie, d'Eli Poigoun, son président d'honneur, et de Bernard Robineau, son vice-président.
À Radio Rythme Bleu, 6h35.
La situation au camp Est est déplorable. C'est le cri d'alerte du syndicat FO Justice. Lundi, une détenue de la maison d'arrêt des femmes a tenté d'agresser un personnel de surveillance. La même détenue, l'après-midi, a mordu au pouce un responsable de quartier. Le syndicat souhaite des actions concrètes pour améliorer les conditions de travail au centre pénitentiaire. C'est ce que nous a dit le secrétaire adjoint de FO Justice.
On s'est mobilisé pour alerter tout le monde au niveau de la direction, mais aussi au niveau de l'administration, pour dénoncer la situation du camp Est, qui devient de jour en jour déplorable. Ce qu'on demande aussi, c'est de le transfert d'une part de cette personne détenue pour éviter d'autres agressions et notamment un appel d'urgence au niveau de l'effectif. Il y a un manquement au niveau des officiers, mais notamment au niveau du personnel de surveillance et notamment du personnel de gradé. Ce qu'on en demande en priorité, c'est un audit. Donc cet outil-là va permettre d'évaluer les besoins, mais aussi permettre de mesurer donc l'importance au niveau des moyens, au niveau effectif, des structures, au niveau des différents secteurs du CPNUMER.
Le syndicat qui attend toujours un retour de la direction. Dans l'actualité sociale toujours, Lussoinck est satisfait de sa mobilisation. Le syndicat avait appelé ses adhérents et sympathisants à se rassembler hier matin devant le Congrès. Ils étaient un peu plus de 300 au plus fort de cette manifestation qui s'est dispersée en début d'après-midi. Les responsables de Lussoinck poursuivaient plusieurs buts, alerter sur la situation d'urgence sociale d'une partie de la population, flécher les aides de l'État sur les besoins essentiels et mettre en place une méthode de travail qui associe plus étroitement les partenaires sociaux. Sur ce dernier point, une solution et même une méthode a été trouvée avec les élus du Congrès, nous a dit Philippe Dunoyer, qui préside la commission permanente.
La démarche portée par Lussoinck est une démarche qui se veut constructive, qui en réalité, indépendamment des sujets, des régimes sur lesquels on doit avoir une attention particulière, demande une méthode de travail. Alors je dirais que c'est une méthode qui va se rajouter à celle qui est déjà mise en place au travers de la mission interministérielle, puisque vous savez qu'on a des groupes de travail qui réunissent les partenaires sociaux, mais là, la demande, et la présidente du Congrès a dit qu'elle porterait cette demande auprès du gouvernement, consiste à organiser des réunions de travail, une méthode d'association des partenaires sociaux, pas seulement du Lussoinck, de l'ensemble des organisations syndicales, de salariés et d'employeurs, sur les différents sujets qui sont les sujets d'urgence. L'idée est de proposer une méthode, ça a été validé par l'ensemble des membres du bureau, donc l'ensemble des formations politiques, et la présidente du Congrès le portera auprès du président du gouvernement pour que ça soit en interaction entre les institutions, que le gouvernement, le Congrès s'alignent, ainsi que les partenaires sociaux, parce qu'il y a partout urgence à agir.
Les responsables de Lussoinck ont ensuite été reçus à leur demande au gouvernement, où ils se sont entretenus avec Christopher Gigès. Au cœur de la discussion, l'affectation des aides de l'État.
C'est important de pouvoir recevoir Lussoinck qui exprime des préoccupations qui sont majeures en ce moment, notamment sur la survie des comptes sociaux. Donc on a pu leur apporter déjà des réponses positives, c'est-à-dire que ce qui a été obtenu à Paris et ce que nous demandions depuis pas mal de temps sur le fait d'avoir des ressources complémentaires pour sauver le RUAM, sauver le régime de retraite et participer à la relance économique, ces crédits qu'on a obtenus participeront à ça. Et on a échangé avec eux sur les différents sujets, notamment sur la relance de l'investissement, sur le mode de travail avec les partenaires. Et je partage également une chose, c'est que parfois on va un petit peu trop lentement au vu de la situation, il faut aller un peu plus vite.
Et à l'issue de cette matinée de mobilisation, le secrétaire général de Lussoinck, Jean-Marc Buretz, était satisfait d'avoir obtenu des éléments de réponse importants.
On a obtenu des garanties que le régime RUAM, le régime retraite et le réseau électrique seraient maintenus pour les années 2026-2027. Un engagement fort du Congrès, le changement de méthode et qu'on serait plus sur une démocratie participative avec les organisations syndicales et patronales, avec un respect des solutions qui seront trouvées ensemble, que la voix des Calédoniens soit mieux entendue à travers nos représentations. Et pour nous, c'était extrêmement important qu'on puisse décrocher cette méthode. On veut que ça aille vite maintenant, que ça aille très rapidement pour que les Calédoniens qui, dans leur quotidien, sont impactés, puissent voir des vraies solutions arriver à elles.
Satisfaction donc, mais Jean-Marc Buret précise que Lussoinck restera engagé, mobilisé et vigilante sur la mise en œuvre des points engagés hier. Il est 6h passé de 40 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment l'inquiétude de la province sud en raison du plan de licenciement en cours à l'ADEC.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Décompressez au Faramédé avec le Maridé. Si loin, mais si près, téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeisland.com.
avis aux gourmands à quatre pattes. Friskies, Supercoat, One, Félix. Leurs marques préférées sont à prix craquant jusqu'au 15 février chez Cheval Distribution. Dépêchez-vous, c'est le moment de les régaler. Retrouvez la promotion dans vos trois magasins, Bellevue, Apogotier et Michel-Ange.
Urgence, pouvoir d'achat. C'est bientôt la rentrée, mon chéri. Tu es prêt?
Prêt à aller à Hyper Upa Ita?
Carrément. En plus, il y a le grand jeu spécial rentrée.
Du mardi 3 au dimanche 15 février, participez à notre grand jeu spécial rentrée pour tenter de gagner 1 million de francs de bons d'achat. Pour participer, complétez le bulletin de jeu directement en magasin et déposez-le dans l'urne prévue à cet effet. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement déposé chez Maître Citrita, huissier de justice.
Bonne rentrée 2026 à toutes et à tous.
U, commerçant autrement.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec ce nouveau dispositif de la province Sud, Sud Sécurité, qui débute aujourd'hui. Il s'agit d'un soutien destiné aux propriétaires de maisons individuelles, qu'ils soient résidents ou bailleurs, qui souhaitent sécuriser leur logement. Lionel Sabot.
Sud Sécurité va fonctionner peu ou prou comme Sud Pro, à quelques aménagements près. Et s'ils souhaitent sécuriser leur maison, ils peuvent donc se mettre en relation avec des professionnels qui établiront un devis. Si le devis est validé par la province, cette dernière prendra une part de l'installation des systèmes de sécurité. Les propriétaires intéressés par Sud Sécurité peuvent commencer leur démarche dès aujourd'hui. Et la première chose à faire, explique Morgane Rivoel, en charge du dispositif à la province Sud, c'est de s'inscrire sur Sud Pro, qui reste la porte d'entrée.
La première étape, effectivement, c'est d'aller s'inscrire sur la plateforme Sud Pro. Il faut s'inscrire en tant que particulier. Donc ça, c'est la première étape. Par contre, une fois que vous êtes sur la plateforme Sud Pro, vous pouvez consulter les entreprises, mais vous n'êtes pas inscrit au dispositif de sécurité. Là, l'important, c'est dans le menu de Sud Pro, vous avez une rubrique qui s'appelle dispositif. Là, vous aurez un formulaire d'inscription. Notre service instructeur va vérifier l'éligibilité de votre profil. Et une fois que le service instructeur a confirmé, vous allez avoir un portefeuille qui va être créé sur votre profil. Et à partir de là, vous pourrez faire vos demandes de devis et valider vos devis. Alors, j'insiste bien, valider votre devis au moment où il y a des fonds sur la plateforme. Et la première session aura lieu le 5 mars.
Les trois sessions de Sud Sécurité sont prévues cette année. Tous les renseignements utiles sont à retrouver sur le site internet de la province Sud.
L'actualité politique avec la préparation des élections municipales, avec la présentation hier d'une nouvelle liste à Dimbéa. Elle s'intitule « Dimbéa au service du peuple » et elle est conduite par Rachel Auchet, une liste soutenue par le nouveau FLNKS dont toutes les composantes sont représentées parmi les colistiers. Rachel Auchet qui a présenté les priorités et le programme de sa liste.
On a beaucoup échangé sur la jeunesse parce qu'on trouve que c'est un des problèmes majeurs de la commune. Ensuite, l'autre axe, c'est d'avoir une mairie proche, utile et à l'écoute. Ensuite, une commune qui rassemble et qui protège le vivre ensemble. Faire de la diversité de Dimbéa une force en favorisant la cohésion sociale, le dialogue et l'égalité entre tous les quartiers. Quatrièmement, un développement local équilibré et inclusif. Ça veut dire soutenir l'économie de proximité. On souhaite un petit peu que la commune soit gérée avec clarté et responsabilité et surtout au service de l'intérêt général de tous les Dimbéas.
En 2020, Rachel Auchet avait déjà mené la liste indépendantiste et elle avait fait son entrée au conseil municipal avec Rodolphe Tonia. Son objectif est de maintenir au moins deux élus au conseil municipal de Dimbéa après les scrutins des 15 et 22 mars prochains. Dimbéa, où plusieurs listes sont déjà en compétition, celle du maire sortant, Johan Lecourieux, une liste conduite par Muriel Malfard et une liste d'union conduite par Cynthia Jean. Intitulée « Unir pour l'avenir », cette liste reçoit le soutien de la section Dimbéa du Rassemblement. Lionel Sabot.
Un soutien annoncé par un communiqué du président de la section à Dimbéa du Rassemblement, Xavier Rossard, et du président du Rassemblement, Alcide Ponga. Ils justifient ce soutien à la liste parce qu'ils appellent trois constats sans appel. Le premier, écrivent-ils, c'est une rupture nécessaire avec l'équipe municipale actuelle qui est soutenue par le sénateur Georges Naturel et qui multiplie les choix politiques incompréhensibles depuis 2023. Deuxième constat, c'est un besoin de sécurité parce que, selon le Rassemblement, la gestion défaillante des émeutes de 2024 a mis en lumière l'incapacité de la majorité sortante à protéger les Dimbéens. Et le troisième constat, c'est l'unité loyaliste, une unité d'autant plus indispensable selon le Rassemblement face au risque d'une liste commune des indépendantistes à Dimbéa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h45.
La province Sud s'inquiète du manque d'informations de la DEC sur les conséquences du plan de licenciement qui est en cours et qui pourrait aboutir, Lionel Sabot, à la fermeture de certains établissements scolaires ou d'internats.
Et à 10 jours de la rentrée, la DEC n'a fourni aucune information précise à la province qui parle dans un communiqué publié publié hier, de l'opacité persistante entourant les conséquences du plan social engagé par la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Ce n'est pas le plan social de l'ADEC que la province remet en cause, mais l'absence de communication sur ce plan. S'il doit aboutir à des fermetures, on parle par exemple de l'internat du collège privé de La Foy, il faut que la province ait le temps de se retourner, explique Gilles Brial, premier vice-président de la province sud, en charge notamment de l'éducation.
L'internat qui ferme à La Foy, l'internat privé, moi je ne sais toujours pas aujourd'hui le nombre d'élèves qui sont inscrits et leur province d'appartenance. Donc je ne suis pas sûr que malgré les efforts qu'on est en train de mettre en place à la province, on soit en capacité d'accueillir l'ensemble des élèves. Ça veut dire que pour ces élèves-là, qui restent inscrits dans le collège, il va falloir qu'ils changent de mode d'hébergement ou de changer de collège. Et tout ça, évidemment, pour les familles, 10 jours avant la rentrée, c'est les mettre dans la difficulté. Et j'ai l'impression qu'on veut nous mettre au pied du mur pour nous forcer les collectivités, mais c'est pas en prenant encore une fois les familles en otage après avoir fermé les cantines l'année dernière qu'on va aider les familles et les enfants et élèves de l'ADEC à s'en sortir.
Et la province rappelle qu'elle honore ses engagements financiers vis-à-vis de l'ADEC. Le 17 février prochain, le bureau de la province va valider le premier versement des 373 millions correspondant à la part que doit la province et à 50% des sommes à la charge des communes.
Et à l'approche de cette rentrée scolaire, la SIC organise 2 initiatives de soutien à destination de 80 jeunes. Cette opération cartable, comme l'appelle le bailleur social, concerne cette année 2 résidences, les Coteaux des Oliviers à Nouméa et Macaranga à Dimbéa-sur-Mer. Dans un contexte actuel de vie chère, la SIC propose d'alléger le budget fourniture scolaire des parents et permet à tous les enfants de démarrer la rentrée dans de bonnes conditions. Hier, 57 enfants ont reçu avec joie cartables, stylos et cahiers.
Alors les enfants, je vais appeler les prénoms, si vous pouvez passer ici un par un, récupérer le cartable et puis retourner à votre place. C'est bon ? Nagopae et Loana.
Voilà.
Merci.
Bonne année à toi, ma grande.
Là, il y a une trousse. Et il y a une règle. Il y a des cahiers. Et cahiers de texte. Et une ardoise.
Là, tu as un super cartable tout bleu.
C'est ma couleur préférée.
Une opération organisée depuis 2012 par la SIC dans le but de réduire les inégalités. La prochaine distribution aura lieu le lundi 12 février à 13h30 à l'espace commun associatif à Dimbéa-sur-Mer. Et puis c'est un moment important pour de nombreux jeunes du territoire. Bien entendu, un peu plus de 2000 étudiants vont reprendre les cours lundi prochain. Ce sont aujourd'hui les premières années qui font leur rentrée. À cette occasion, la présidente de l'université a organisé une rentrée solennelle hier après-midi. Elle a dressé le bilan de l'année passée en présence de représentants d'institutions calédoniennes et évoqué les nouveautés pour l'année 2026. Des projets dont nous parlerons tout à l'heure à 7h30 avec Catherine Risse, la présidente de l'UNC, qui sera en effet notre invitée du matin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Avant de refermer cette page, voici notre question du jour. L'ADEC devrait-elle, selon vous, être plus transparente sur le plan de licenciement en cours? Si vous pensez qu'elle devrait être plus transparente, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le recrutement de soignants à l'extérieur se fait au détriment des personnels de soins en activité sur le territoire. Ils sont donc 29% à penser que ce n'est pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h49, on marque une nouvelle pause publicitaire et on se retrouve après avec l'actualité en métropole et notamment les réquisitions au procès en appel de Marine Le Pen.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Pizza and Pasta au 24 30 70 et retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Pizza and Pasta.
Savez-vous que vous pouvez acheter malin grâce aux étiquettes énergie de vos appareils? Les classes vous donnent également une idée de la consommation électrique et en eau par an, en plus d'autres informations utiles comme la capacité en kilos de vos appareils.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Chez CIMAC Quincaillerie, c'est la rentrée des prix. La perceuse visseuse Makita 450 watts Mandrin Auto est à 7900 francs. Offre valable du 1er au 28 février dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur CIMAC.nc à Nouméa, carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kadaviti. CIMAC Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Ah, ces assurances!
J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Actualité judiciaire en métropole et l'exécution provisoire qui n'a pas été requise dans le procès en appel de Marine Le Pen. Depuis trois semaines maintenant, 11 cadres du RN comparaissent de nouveau dans cette affaire des assistants parlementaires européens du FN, devenu Rassemblement National. C'est la dernière ligne droite avec les réquisitions et peut-être une bonne nouvelle du côté de Marine Le Pen. Le ministère public ne demande pas d'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Exactement, et on connaît maintenant la peine réclamée par le parquet contre Marine Le Pen, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis. Cela signifie 1 an de prison ferme à effectuer de manière aménagée avec un bracelet électronique. Les avocats généraux réclament aussi 100 000 euros d'amende et requièrent surtout 5 ans d'inéligibilité. Le parquet, en revanche, renonce à, vous l'avez dit, à sortir cette peine d'exécution provisoire, qui avait fait polémique, souvenez-vous, en première instance. Le parquet l'écarte en considérant qu'il n'y a pas de risque de réitération et de risque de trouble à l'ordre public. Une bonne nouvelle, selon l'avocat de Marine Le Pen, maître Rodolphe Bosselu.
Le seul point que je vois aujourd'hui extrêmement positif dans ces réquisitions, c'est qu'il a été dit qu'une ligne de défense n'était plus une criminalisation et un risque de récidive pour le client. Et je peux vous dire que comme avocat, c'est une très bonne nouvelle. Le reste viendra à la fin de la semaine prochaine.
Et il reste donc ces 5 ans d'inéligibilité requis. Peine qui, si elle venait à être prononcée dans quelques mois, serait un casse-tête pour Marine Le Pen. Elle devrait décider de se pourvoir ou non en cassation, avec le risque que cela l'empêche de décider qui sera le candidat RN à la présidentielle. Elle pourrait aussi décider de jeter l'éponge et de lancer Jordan Bardella. Car même si la Cour d'appel écarte l'exécution provisoire, il faudra attendre une décision en cassation.
Et toute la question sera donc de savoir si la Cour de cassation se prononcerait avant ou après le premier tour de la présidentielle en 2027. J'en parlais en titre tout à l'heure, un drame à Sanary-sur-Mer, cette petite station balnéaire entre Toulon et Marseille. Au collège, un élève de 3e a poignardé sa professeure d'art plastique, âgée de 60 ans. Son pronostic vital est engagé. Il était 14h30 en métropole lorsque cet adolescent de 14 ans a agressé sa prof à l'entrée de la salle de cours avec une arme blanche. Il lui a asséné 3 ou 4 coups de couteau, selon le procureur de la République. Écoutez le témoignage des élèves qui étaient en cours dans la classe d'à côté.
Il a fait tomber le couteau quand il a couru et le CPE, il l'a attrapé, il s'est jeté avec par terre pour le rattraper.
Et après, il a commencé à pleurer, il y avait la foule et tout.
Il était comme ça, enfin,
oui.
Il était en pleurs et tout.
Pétrie. On voyait sur ses lèvres, il disait putain.
Oui, ça, et j'ai entendu la prof crier à l'aide.
Tatiana, une de ses collègues, parle d'une femme expérimentée, appréciée. Cette prof de PS connaît également très bien l'élève de 14 ans mis en cause.
Moi, je l'ai en EPS depuis l'année dernière. C'est pas un élève qui manifestait forcément de la violence. Il est pénible. Je sais qu'il était quelquefois exclu de cours, mais de là à agir comme ça et de manière apparemment préméditée, on est stupéfait. S'attendait pas à ça quand même de sa part.
L'adolescent a été placé en garde à vue des chefs de tentative d'assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. Il était en effet venu au collège avec un couteau et selon plusieurs élèves, il aurait dit ce matin qu'il préparait quelque chose de grave. Mais cela reste à vérifier selon le procureur de la République. 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et notamment la Coupe de France de football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Un appartement de standing à petit prix ? C'est maintenant. Samedi 7 février, portes ouvertes à la tour Pacific Plaza et Pacific Arcade avec CK Immobilier. De 8h30 à midi, découvrez des F1, F2 et F3 avec frais d'agence réduit. Ne manquez pas l'occasion de trouver votre chez vous le samedi 7 février. Plus d'infos au 24 24 24 et sur Facebook Kaya Recador Immobilier.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au PQ7 rue Jacquier-Caoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste, ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bon d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 13 février à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et du foot, puisqu'on joue ce matin les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France. Deux matchs sont au menu de cette matinée, Lionel Sabot.
Oui, et la première rencontre a débuté à 6h30 et voit une confrontation entre deux clubs de Ligue 2, puisque Reims reçoit Le Mans, un match plutôt agréable dans le jeu, même s'il n'y a pas franchement de grosses occasions entre les deux équipes de Ligue 2. Après une petite demi-heure des jeux, Reims et Le Mans sont à égalité 0-0. Le second match de cette matinée verra une confrontation cette fois-ci entre deux clubs de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, qui est dans le dur depuis quelques jours, recevra au stade de Vélodrome le stade Rennais. Les deux équipes se retrouveront à partir de 7h10, heure de Nouméa, pour ce huitième de finale.
Du football sur le territoire à présent, avec le retour de la Super League prévue le samedi 7 mars. Le championnat retrouvera un format classique, c'est-à-dire en match aller-retour sur 18 journées et toujours 10 équipes pour cette saison 2026. Steve Laigle est le président de la Fédération calédonienne de football.
On repart sur une formule, on va dire, plus ordinaire, c'est-à-dire des matchs aller-retour avec à la fin des 18 journées un champion et un vice-champion. On a hâte du retour de la saison, d'ailleurs, contrairement à ce qui s'est passé ces dernières années. C'était la première journée le 7 mars, donc ça démontre bien la volonté de vite retrouver le terrain. Tout le monde est prêt. D'ailleurs, il y avait à la Réunion, il y avait en visio certains coachs qui jouent le haut de classement et ils avaient hâte. C'est d'ailleurs eux qui ont poussé pour le 7. Je reprise le 7 parce qu'ils ont dit que nos joueurs ont hâte. Ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas fait de compétition. Et même pour remotiver les jeunes, c'est pas évident. Donc, plutôt on reprend, mieux c'est.
Et c'est donc à l'issue des 90 matchs de Super League que le championnat de Calédonie sera connu. En ce qui concerne les montées et les descentes, la FCF annonce qu'un groupe de travail se chargera de poursuivre la consultation des clubs, ceux de Super League et de Promotion Honneur, en concertation avec les comités provinciaux, afin de trouver la formule adéquate à la progression de tous.
C'est surtout pour la fin de saison et puis pour la saison prochaine en 2027. C'est les fameux barrages, les fameuses montées-descentes qu'on doit discuter vraiment tout le monde, quoi. À prendre des décisions unilatéralement avec les clubs de Super League et la Fédé, mais mettre tout le monde dans la boucle et puis partir ensemble sur un championnat. Parce qu'il y a des perspectives derrière, de possibilités d'améliorer les différents championnats et de rajouter peut-être une division. La piste prioritaire, voilà, c'est comment rendre le championnat plus performant et puis qui satisfasse tout le monde et puis tous les pratiquants, quoi.
Steve Laigle, le président de la FCF. Le calendrier officiel sera prochainement dévoilé sur la page officielle de la Super League et le site internet de la Fédération calédonienne de football. Et puis cette annonce faite ce matin par Cédric Do sur les réseaux sociaux, le boxeur calédonien devait combattre le week-end prochain en Europe, combat finalement reporté au mois d'avril. La cause, l'adversaire de Cédric Do ne pourra pas être au poids.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Mais bien volontiers Nicolas, avec cette vigilance jaune qui commence pour commencer avec une pluie et des orages. Alors ça concerne la commune, sur les communes de la côte ouest, du nord de Moindou inclus et aussi du côté de Saraméa ainsi que Farino. Pour un risque d'averses orageuses, ce sera pour cet après-midi et en soirée. Ce matin, sur la pointe nord-est et au loyauté des averses circuleront sous un ciel passagèrement nuageux à nuageux. Ailleurs, le soleil dominera. Le vent lui pour ce matin orienté sud-est, généralement compris entre 15 et 20 nœuds. Après un début de matinée, 10 à 15 nœuds sur le nord. Cet après-midi, les nuages deviendront plus nombreux, notamment sur le relief, le nord-ouest et au loyauté où des averses se produiront. Coup de tonnerre ne sera pas exclu. Également ailleurs, le ciel sera généralement peu à passagèrement nuageux. Il se chargera en fin de journée à Nouméa jusqu'à la pointe sud. Le vent orienté toujours au sud-est pour cet après-midi. Alors 15 à 20 nœuds, il va se renforcer entre 20 et 25 nœuds. Des rafales prévues à 30-35 nœuds sur l'ouest. Les températures restent généralement comprises autour des 30 degrés. Elles atteindront jusqu'à 34 degrés, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir écouté ce journal que vous pourrez retrouver évidemment sur notre site internet, le www.rrb.nc. Dans un instant, on le rappelle, les titres de l'actualité de ce mercredi matin, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Jean-François Baudin, et ensuite vous avez un avis, vous viendrez l'exprimer par téléphone en direct au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.